Paul Issapou, bonjour.
Bonjour.
Comment s'exerce le statut consultatif des ONG auprès des instances de l'OIF?
Eh bien, les organisations qui sont membres de l'OIF avec ce statut sont consultées pour des questions qui se posent dans l'espace de pays francophones et gérées au niveau de l'OIF, bien sûr. Alors, ce statut leur permet, par exemple, d'apporter leur contribution aux problématiques transversales dans tous les domaines. En ce qui concerne l'Afrique, c'est plus des consultations en matière de questions de paix et développement et démocratie, si vous voulez.
Comment les ONG et les OSC s'activent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin et la parité homme-femme, comme nous l'avons entendu dans le plaidoyer fait par le président Macky Sall?
Oui, c'est une problématique dans l'espace francophone. On a dû constater que les femmes, les jeunes sont absents dans les institutions de prise de décision à tous les niveaux. Et nous sommes présentement en train de nous consulter pour réaliser un cahier des charges à soumettre, si vous voulez, au chef d'État lors du sommet qui aura lieu ici. Concrètement, il y aura des questions qui seront posées au chef de l'État. Presque la plupart des pays ont ratifié, ont signé des conventions, des textes internationaux dans lesquels le problème de la parité du genre est posé, sont posés clairement pour la prise en compte de cette participation et de la femme et des jeunes. Voilà pourquoi la recherche des solutions passe également par la prise en compte de cette participation de ces deux catégories dans la gestion de nos pays. Pour nous, nous respectons, nous appliquons déjà la parité, l'égalité au sein de certaines organisations comme la FIDH, le Bureau international où le conseil d'administration est constitué en égalité hommes et femmes. Bon, comme à la liste électeurs au Congo-Kinshasa, à la SADO, et au groupe Lotus au Congo-Kinshasa, nos membres s'exercent aussi pour avoir plus de femmes, plus de jeunes, plus d'hommes dans leur structure. Et déjà, ils s'exercent si jamais ces gens doivent passer dans un autre cap, c'est-à-dire la gestion politique du pays, ils ont une maîtrise. Voilà une bonne pratique que nous apportons à nos collègues qui sont ici. Et évidemment, en dehors de la production législative, pour que le loi et les textes soient vraiment en mesure de protéger ces catégories par rapport à leur participation.
Curieusement, nous apprenons la saisine de la justice sénégalaise par la FIDH que vous représentez ici. En quelques mots, qu'en est-il au juste de cette saisine?
Eh bien, vous êtes sans ignorer que 4 ans après l'assassinat de Floribert Chebeya, notre collègue et son collaborateur Fidel Bazana, le procès n'a pas du tout progressé. Par contre, il est bloqué. C'est inacceptable pour la communauté de défenseurs des droits de l'homme, avec les familles des victimes, les veuves et les orphelins qui nous ont demandé de les appuyer. Nous avons donc porté plainte auprès de la justice sénégalaise, qui est une justice dans un pays où s'est réfugié M. Paul Bila Mbwe, qui est l'une des personnes citées parmi les personnes qui avaient assisté, disons, à l'assassinat, d'après les témoignages que nous avons, à l'assassinat de Chebeya et Bazana. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Sur base de la loi des compétences universelles, le Sénégal ayant signé la convention contre la torture et exerçant, ayant dans son système judiciaire la loi des compétences universelles, le Sénégal est obligé de prendre en compte cette plainte et de mettre en branle un procès contre Paul Bila Mbwe, et la RDC sera obligée, si vous voulez, d'envoyer ses avocats et de suivre cette affaire, etc. Toutes les justices du monde nous soutiennent et toutes les organisations, j'ai dit bien, des droits de l'homme soutiennent la démarche qui est entamée ici.
Paul Issapou, je vous remercie.
Merci.